Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quelles recherches mènent les doctorants? Pourquoi écrivent-ils une thèse? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années? Aujourd'hui, Marie-Charlotte Dizès, doctorante au LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO et à l'école doctorale de droit et de sciences politiques, nous présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, les acteurs en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale. Première question, comment, quand on est encore en master, donc il faut se replonger quelques années en arrière, comment, pourquoi, quand on est étudiant en master, on décide à un moment de s'inscrire en thèse?
Alors je pense que ça se joue déjà peut-être en licence et après dans le choix du master qu'on va effectuer. On choisit déjà les matières qu'on préfère, le domaine d'expertise dans lequel on veut aller et ensuite selon les matières qu'on a choisies, on va s'orienter aussi vers un master 2, soit ce qui était anciennement DEA, DESS, soit recherche, soit professionnel. Et lorsqu'on fait un master de recherche, on a déjà un mémoire de recherche à réaliser, moi ce qui était mon cas. Et en fait ça nous permet d'avoir un premier pied dans la recherche, voir si ça nous plaît, voir si en plus que ça nous plaît, bah, on n'est pas trop mauvais non plus dans l'exercice. Et en fait, la continuité, c'est logiquement la thèse. Donc ça permet de continuer dessus.
Et ce sujet de master, c'était quoi ?
Moi, c'était sur les minorités face à l'État, en me concentrant essentiellement sur voir l'appréhension des minorités sur les anciens pays satellites de l'URSS. Donc sur le Haut-Karabakh, l'Ossétie du Sud.
Voilà. D'accord, ouais, c'est déjà des questions fortes. Donc pourquoi avoir choisi ce sujet sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale? Et pourquoi, enfin j'imagine, le point d'entrée sur les Nations Unies?
Alors, quand on choisit son sujet de thèse, on va avoir un choix pour... de sujets qui peut être assez large, soit aussi on va avoir le directeur de thèse qui va proposer un sujet, soit c'est le doctorant, donc le futur étudiant, qui arrive avec un sujet, soit c'est en collaboration entre les deux. Moi j'ai choisi mon sujet, parce que déjà quand on fait ces études du coup en droit international, on voit le système des Nations Unies, et en fait finalement on va traiter essentiellement en droit international public les matières qui sont du droit humanitaire, du droit des conflits armés aussi, sur les relations en fait entre l'État, c'est la base du droit international, et de ce fait, ça a amené à se poser la question des conflits, en règle générale, et des acteurs, parce que c'est aussi un sujet d'actualité, et quand on lit l'actualité, quand j'ai commencé ma thèse, c'est de voir que tout d'un coup, il y a des militaires français qui interviennent, il y a les militaires qu'on va considérer casque bleu, il y a une multitude de personnages qui vont intervenir sur un territoire, et ça part aussi de la volonté de comprendre comment cela se fait et comment ça peut être encadré juridiquement.
D'accord. Alors quels sont, en quelques mots, alors, les principales interrogations du point de départ, enfin de votre thèse?
Alors, quand on pose le sujet, les premières, c'est déjà de définir les termes du sujet. C'est
oui.
Assez bête, mais c'est...
mais en fait, il faut déjà demande le circonscrire.
Il faut le...
En soi, c'est un travail.
Ou décider de le circonscrire, ou justement décider de ne pas le circonscrire, parce que moi, dans mon cas, le but était de prendre une vision un peu plus large, de ne pas circonscrire à une zone géographique, mais plus comprendre comment ça marche dans son ensemble, le système, et de se servir finalement des conflits sur le territoire ou sur une pratique pour essayer d'amener... juste à illustrer en fait les propos ou à voir quelle était la pratique pour retrouver le droit applicable aussi. Donc les interrogations après c'est d'étudier de façon très large pour des juristes, c'est aussi se bercer dans plein d'ouvrages juridiques et puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et peut-être quelles sont les règles plutôt générales, quelles sont les exceptions et après d'essayer
de
former.
Vous n'avez pas choisi par exemple de partir d'un conflit particulier?
Non, parce que en fait, souvent, lorsqu'il va y avoir des travaux, il va y avoir un conflit en particulier, et les règles qui vont être applicables à un conflit ne sont pas forcément à un autre conflit. Et le but, c'était peut-être plus de prendre de la hauteur et d'essayer de voir s'il n'y avait pas des règles qui pouvaient se détacher, et s'il n'y avait pas certainement une pratique aussi qui se détachait en général, plutôt que de voir un conflit en particulier.
On cherchait comme une cohérence ou des récurrences d'un conflit à un autre.
C'est ça.
D'accord. C'est vaste. Comment on fait alors, comment ça commence le travail? Quelle est la méthode pour... on en est là, là, on veut faire tout ça. Comment on fait?
Alors pour les sciences humaines en général, c'est, surtout pour les juristes d'autant plus, c'est essentiellement un travail de bibliothèque, de bibliographie, de recherche. Et puis moi j'ai eu la chance aussi de partir en Afrique pour ma deuxième année de thèse, d'y travailler à l'ambassade de France au Burundi, qui était une zone qui était post, quoi, qui était en reconstruction et peut-être pré-conflit un petit peu entre les deux, ce qui permettait d'avoir peut-être des idées en tant qu'observateur finalement par rapport au travail qui m'était demandé, qui m'a permis aussi après de pouvoir être intégrée dans mon travail de recherche aussi. Donc c'est, après, c'est essentiellement un travail de recherche, mais de recherche de voir les textes, de lire toutes les résolutions du Conseil de sécurité, de comprendre pourquoi le Conseil de sécurité des moments recommande, des fois recommande, des fois décide. Et puis ça joue beaucoup sur le vocabulaire en fait, en règle générale aussi. Donc c'est tout ce travail-là qui est un travail assez vaste aussi. Et puis voilà, en fait.
Donc ça commence comme ça. Travail de lecture, de synthèse, d'analyse.
C'est ça.
De juristes. Et bon, j'ai eu plusieurs doctorants en droit, là, je vois bien que les juristes travaillent essentiellement sur des textes, mais vous avez quand même été donc sur un terrain au Burundi. Est-ce qu'il y a eu au moins, comment ça, intellectuellement, est-ce que ça a créé un retour sur la lecture, ou la lecture vous a permis d'analyser des points précis du terrain?
Oui, parce qu'en fait, on arrive sur des territoires qui sont en reconstruction. Moi, j'avais, alors, ça te dire ça, peut-être la chance, du coup, aussi, d'avoir l'ONU qui était aussi présent sur le terrain, donc de pouvoir aussi, par lui du travail, participer à certaines réunions. Et ça permet de voir comment un pays, en fait, ou un État, du coup, arrive à se reconstruire et comment les aides internationales viennent aussi aider la reconstruction des États et puis de voir peut-être des fois certains défauts qui peuvent être visibles sur des territoires en reconstruction, de voir des faiblesses certainement, et ça permet en fait d'avoir cette vision là qu'on n'a pas forcément d'un côté que théorie en lisant des ouvrages. On voit un côté plus pratique, ce qui permet peut-être d'accéder après les recherches différemment.
Dans ce cas, vous revenez sur les textes et vous cherchez la lacune qui crée, par exemple, tel problème.
Par exemple, sur un exemple que je peux donner, parce que ça m'avait assez marqué, c'est quand j'étais au Burundi, on y va, il y a comme beaucoup de militaires et beaucoup de policiers partout. Et en fait, on échange avec des amis qui peuvent être dans d'autres pays africains, et on se rend compte qu'en fait, potentiellement, il y en a quand même beaucoup plus qu'ailleurs. Et en fait, ils sont armés, ils ont l'autorité, et puis ce sont ces mêmes militaires qu'on va peut-être envoyer, que le Burundi va envoyer à la MISOM, en fait, parce qu'ils vont participer aussi à des opérations extérieures ailleurs. Et en fait, on se demande, mais comment se fait-il qu'il y a autant de militaires? Et c'est ça qui amène finalement à regarder les textes, et par exemple les accords de paix. Donc pour le Burundi, c'est les accords de paix d'Arusha, qui vous dit que toute autorité dissidente, en fait, est incorporée dans les forces militaires ou forces de police. Donc du coup, ça amène à se poser plein de questions en tant que juriste, à vous dire pourquoi on le fait et quelles sont les conséquences à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est plutôt ça.
D'accord. L'autre jour, vous m'aviez parlé aussi, par exemple, de deux soldats qui étaient côte à côte, qui n'étaient pas de la même nationalité, qui avaient tous les deux, au sein d'un conflit, tous les deux, une conception différente de la légitime défense.
Alors, c'est déjà dans les armées nationales, on va avoir des...
Au sein même d'une même armée?
Non, c'est dans différentes armées nationales. Donc, par exemple, les Français, si on prend les extrêmes, il y a les Américains ou les Allemands, vont avoir certaines conceptions juridiques totalement différentes. Souvent, c'est celle qui est souvent la plus nommée, c'est la légitime défense. Les Américains ont cette conception extrêmement large de la légitime défense. Qui est la légitime défense qui... Alors maintenant, c'est un petit peu ce qui a été souvent fait pour certains conflits internationaux. On vous dit, ça peut être préventif, c'est pour sa personne, pour son voisin, pour les biens en général. D'accord. Alors que les Allemands, ça va être beaucoup plus encadré. Et ce qui va peut-être poser problème, c'est qu'on peut envoyer aussi, parce qu'ils peuvent intervenir par rapport à différents biais, sur un même territoire, des militaires de différentes armées. Or, il va falloir que justement, ça coïncide, parce qu'ils n'ont pas les mêmes conceptions, en fait, de la sécurité, tout simplement, et ils vont devoir agir sur un même territoire. Donc ça pose aussi des conflits, des difficultés, en fait, à ce niveau-là.
Ouais, c'est très intéressant, on ne pense pas à tout ça quand on regarde ce qui se passe. Quels sont l'intérêt, il y a deux choses. L'intérêt de faire une thèse, moi, je le vois évidemment, je le vois avec les doctorants, je le vois avec vous, mais aussi les difficultés. Alors intérêt, difficulté d'un tel travail qui, à un moment, il faut finir en plus.
Bah alors, l'intérêt, c'est que souvent, on part dans la recherche parce qu'on aime bien, et puis finalement, on garde cet entrain les premières années aussi à réaliser une thèse, parce que c'est de la recherche, parce que souvent, en plus, quand on travaille à l'université et qu'on fait de la recherche, bah, on fait aussi de l'enseignement, donc il y a ces deux volets aussi, ces deux casquettes, qui sont assez intéressantes, parce que si en plus, on peut enseigner dans des matières qui peuvent nous aider pour la thèse, bah, c'est un petit peu, c'est un circuit qui est assez intéressant aussi, intellectuellement parlant, et en fait, bon, on fait une thèse parce qu'on aime la recherche, je pense, de base, parce que ça nous intéresse, et puis il y a un sujet qui nous tient à cœur, ou des sujets qui nous tiennent à cœur, et ensuite, on va avoir comme des difficultés, ce qui sont inhérentes à la recherche.
C'est quoi les premières qui sont évidentes?
Alors déjà, je pense que c'est la reconnaissance du doctorat en France, en règle générale, parce que c'est vrai qu'on nous prend encore comme des étudiants à tarder un peu ou assister, parce qu'on reste longtemps en études et qu'on oublie qu'on travaille aussi à côté. Après, il y a des difficultés qui sont aussi financières, parce qu'il faut pouvoir mener sa recherche
tout en
perspective. Et puis voilà, c'est ça. Donc,
il peut y avoir des difficultés théoriques aussi, non, de clore le sujet quand même.
Après, oui, il y a les difficultés qui sont après aussi, qui sont inhérentes au sujet, à savoir. Mais c'est aussi un choix qu'on fait aussi de choisir son sujet et de l'encadrer. Donc en général, ces difficultés, on s'en sort pas trop mal ou on arrive à les justifier après parce que c'est, faut pas oublier que c'est d'abord un plaisir de le faire parce qu'on a choisi nos sujets.
Oui.
Donc on peut pas voir non plus que le côté négatif ou même si peut-être à la fin, des fois les gens essayent de faire la balance entre le positif et le négatif. Mais c'est un sujet qu'on a voulu. On y a donné quelques années de notre vie aussi de recherche et peut-être la difficulté première, bah, c'est qu'en fait ce sujet de recherche il nous quitte jamais. Contrairement à des personnes qui prennent des vacances, c'est toujours en tête le week-end, le soir. Les vacances quand on en prend, donc c'est ça, on apprend à vivre avec une charge mentale supplémentaire.
Mais plusieurs de nos doctorants m'ont dit que c'est la même, c'est deux faces d'une même médaille, plaisir et difficulté, l'obsession de la tâche.
Mais c'est ça.
Tous les gens qui font le tour du monde en voilier, c'est pareil, ils ne pensent pas à autre chose.
Oui, voilà, il faut arriver à un moment, c'est ça.
Alors dans les autres disciplines, en sciences par exemple de la mer, les doctorants parfois publient avant leur thèse. Je sais qu'en droit, ça ne se fait pas forcément. Alors, pourquoi ?
Alors, il y a différents types de thèses. Il y a les thèses d'exercice qui concernent essentiellement les milieux médicaux. Après, dans les thèses, on va faire une différence entre les thèses qui sont scientifiques et les thèses scientifiques qu'ils appellent sciences dures. Alors, nous, sciences humaines, on fait partie des sciences molles, qu'on soit d'accord ou pas avec les déterminations. Souvent, pour ce qu'on appelle les sciences dures, ils ont tendance à faire des thèses à articles, en fait. Donc, ils écrivent des articles avec des résultats.
Oui.
Et en fait, leur thèse, c'est une compilation de ces articles-là avec un lien aussi dessus. Nous, en droit, sciences humaines aussi, c'est un sujet. C'est un sujet qui demande une application. Ce qui n'empêche pas qu'en tant que doctorant aussi, on peut publier et on fait des publications même avant la thèse.
Mais pas forcément sur le sujet de la thèse.
Alors, on le fait, mais en fait, les exigences aussi académiques nous demande, si on veut passer après à la Commission nationale universitaire, d'essayer d'avoir un article qui n'est pas dans sa spécialité. Donc on va essayer aussi d'intervenir sur des sujets qui peuvent nous intéresser, et puis ça dépend aussi des opportunités avec des colloques ou des organisations de séminaires qui sont organisées au sein de l'université, qui nous permettent aussi d'intervenir.
D'accord. Et donc là, on imagine maintenant que la thèse est soutenue, quand ça y est, tout s'est bien passé. Et que se passe-t-il après ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut envisager quand on écrit une thèse en droit, notamment sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale ?
Ben alors, il y a la voie généralement académique qui veut qu'on passe à une commission nationale universitaire, et puis qu'on soit qualifié ou non, et puis si on est qualifié après, d'être recruté. Alors actuellement, il y a quand même très peu de postes. Depuis l'autonomie des facs, ça ne va pas en s'améliorant, donc c'est une voie qui devient un peu plus difficile.
Oui.
Après, c'est comme tout aussi personne qui sort aussi d'un Master 2 qui cherche un travail, ça va dépendre des opportunités. Ce qu'il y a de différent peut-être pour les doctorants, c'est que on a fait de la gestion de projet pendant une certaine année, qu'on a plus de recul et que souvent on a quand même enseigné aussi beaucoup de matières, ce qui nous a rendu spécialistes
dans beaucoup
de matières juridiques également, qui ne sont pas non plus nos matières de prédilection de base. Donc après, c'est se retrouver soit après travailler, faire des concours aussi ou avoir des passerelles en doctorat sur certaines professions juridiques qui existe.
Oui, un doctorant est très armé à la fin de sa thèse quand même. Il a un savoir-faire, c'est énorme le travail quand il accomplit. Il y a autre chose que la thèse qui a été produite. Les compétences, quoi.
Oui, il y a les enseignements, il y a les colloques, il y a les communications, les publications aussi qui peuvent intervenir. En fait, la thèse, après, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai toujours vu comme un chemin. non pas comme une finalité en soi. Ah. Donc, du coup, le chemin, bah, on fait aussi autre chose et puis ça permet de aussi avoir plus d'expertise.
C'est une image qui peut servir pour beaucoup de projets, ouais.
Les questions du public.
De toute évidence, le sujet est toujours brûlant d'actualité. Donc, quand est-ce qu'on décide de clore une thèse ? Je veux dire, l'actuelle situation en Syrie et les prises de position de l'ONU ou pas sont aussi sûrement des données. Et quand est-ce qu'on décide qu'on s'arrête de prendre des données pour faire une conclusion ?
Alors, je pense que la difficulté aussi pour les juristes, quand on prend des sujets qui sont d'actualité, c'est que finalement, il faut faire attention de ne pas tomber, je pense, dans le commentaire qui serait du commentaire journalistique, en fait, comme on entend, qui sont à chaud, qui sont en plus souvent, il y a aussi beaucoup d'émotions dans ces sujets-là. Et puis en fait, tout simplement, comme on fait un travail qui est quand même assez long, la rédaction est assez longue pour les thèses de droit, parce que c'est vrai que par rapport à une thèse de science qui fait 200 pages, la norme en droit, on est plutôt actuellement à des thèses en moyenne qui font du 500-550 pages. Donc déjà, on peut, entre le début et la fin de la rédaction, il y a un laps de temps relativement long qui va se faire aussi. Donc on va remettre à jour la thèse. Mais après, bah, c'est un choix. C'est un choix de dire qu'à un moment, bah, faut s'arrêter parce que sinon, c'est un petit peu comme certains sujets, bah, il y aura toujours des réformes qui vont arriver. Donc il faut savoir clore et se dire qu'on met une date précise en fait, de fin en se disant, quand on va lire par exemple les résolutions du Conseil de sécurité, en se disant, bon, bah, telle année j'arrête ou à partir de tel conflit. Et puis de toute façon, on le met aussi dans la thèse. Donc on l'explique que c'est à partir d'un moment. Ce qu'il y a, comme le droit international, c'est assez consensuel aussi, c'est qu'on n'est pas sur des énormes réformes qui vont changer forcément tout le droit en règle générale. Donc c'est plus sécurisant que ceux qui vont faire par exemple du droit interne et qui vont faire sur la décentralisation, parce qu'il y a eu je ne sais pas combien de changements sur la décentralisation en France, ou qui vont faire des sujets qui ont tendance à beaucoup bouger et remettre en cœur tout le travail en fait.
L'actualité donc, n'invalide pas ce que vous avez déjà dit ?
Non, non,
là,
non.
Même ce qui se passe en Syrie actuellement ou en Turquie, là par exemple, non. Ça ne change pas votre thèse, elle est toujours...
Non, c'est, voilà, ça fait partie d'un conflit malheureusement, parmi tant d'autres aussi. Donc après, il y aura des ajustements potentiels à faire ou d'autres exemples à donner, mais sur une grosse partie de l'argumentation de la thèse, ça ne change pas.
D'accord, très bien. Oui.
Merci. Moi, je voulais savoir, finalement, est-ce que tu as eu assez rapidement une idée du déroulement ou de vers où tu allais, ou est-ce que finalement, ben, il y a eu une évolution importante, et à quel moment est-ce que tu as finalement changé ou apporté des nouvelles choses, et est-ce que c'était assez direct, ou alors est-ce que finalement tu as contourné ta réflexion pour arriver à tes résultats actuels ?
Moi j'ai beaucoup changé, que ce soit mon plan, pas forcément les axes de réflexion, mais à l'intérieur, parce qu'en fait en plus on a tendance souvent à dire en droit, alors pourtant on le dit aux étudiants, attention au plan bateau, et au final on finit toujours par faire des plans bateau aussi, donc il y a toujours cette problématique où on se dit est-ce qu'on veut faire quelque chose d'original ou quelque chose finalement qui reste assez standard, et en fait une fois qu'on a même ces deux axes de réflexion je pense, et bien à l'intérieur on a une image de ce qu'on va développer, et en fait c'est quand on va commencer à faire vraiment de la recherche sur un sujet précis, c'est à ce moment-là où des fois on se dit ah bah finalement l'arrivée est beaucoup plus loin que ce qu'on le pensait parce qu'il y a plein d'autres notions en fait qui vont rentrer en jeu, et comme tout travail juridique, bah, une notion amène une autre notion, amène des définitions, amène à voir comment ça a été, quelle est la pratique vis-à-vis de ça, donc ça amène souvent à revoir non pas les gros axes mais vraiment à l'intérieur comment les dispositions ou amener à faire d'autres recherches, et des fois loin de ce qu'on avait pensé faire.
Oui, une question là-bas, ouais.
Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand on fait une thèse, comment est-ce qu'on la rédige ? Enfin, est-ce que on se met pendant qu'on fait nos recherches, on se met à l'écrire au fur et à mesure ou pas ? Je sais pas.
Ça va dépendre de beaucoup, en fait, des doctorants. Nous, on a de la chance parce qu'on est une petite communauté de doctorants à Brest, ce qui fait qu'on échange souvent aussi sur nos méthodes de travail, sur des méthodes de travail qui sont aussi des fois guidées par les directeurs de thèse. Il y a certains qui ont fait des thèmes qui doivent rendre du travail très rédigé pendant longtemps, donc ça permet en fait d'avoir déjà des sous-parties, on va dire, rédigées. Et en fait, après, généralement, bah, c'est quand on a fait un plan, on commence à le détailler et qu'on commence à rédiger sur des parties. Il y a autant de façons, je pense, de rédiger une thèse qu'il y a de doctorants. Après, moi, je sais que c'est plutôt, on finit par rédiger des petites parties en se disant que c'est intéressant parce qu'on sait que ce sera dans notre thèse, on sait que c'est une sous-partie d'un plan, sans potentiellement, en pensant qu'on va le mettre à une place précise, et finalement on se rend compte que peut-être que le plan est amené à bouger, donc dans ce cas-là on va faire un petit peu comme un puzzle, on remet dans un certain ordre et puis on reprend la rédaction à ce moment-là. Mais c'est comme quand on fait des exercices, finalement, une dissertation, on demande des dissertations aux étudiants, c'est un plan en deux parties, deux sous-parties. Nous, les juristes, la règle en général, c'est un plan aussi en deux parties, en deux sous-parties, puis après on divise par deux, des fois par trois aussi, hein. Mais finalement, on prend dans l'ordre, ou on prend dans le désordre, parce qu'on en a un peu fatigué d'étudier une partie où on est bloqué, donc on va le faire de façon non pas linéaire, et après on reviendra dessus, mais en fait, tant qu'on a une vision globale du travail, je pense que ça va, en fait, on n'est pas perdu dans le travail en soi.
J'ai une question pour vous, justement, public. Est-ce que Marie-Charlotte vous a donné envie de vous inscrire en thèse? Vous êtes étudiante actuellement en licence, master. D'accord, il faut prendre le micro. Comment vous voyez la thèse de là où vous êtes?
Ben je ne sais pas trop, mais une thèse, j'avais déjà envie d'en faire une avant.
Ah,
et... Et je me demandais comment ça se passait, parce qu'on parle souvent de la thèse, mais... C'est un gros mot, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, tout le travail et tout ça. Du coup, ouais, je voulais des infos.
D'accord, très bien, merci. Une dernière question. Oui.
Merci beaucoup. Et moi, je voulais poser une question par rapport à ceux qui viennent de débuter. Quels sont, selon vous, voilà, les écueils à éviter pour ne pas s'embourber?
Alors, je ne sais pas. Après, je sais que la difficulté, c'est souvent la gestion de projet, parce qu'on nous dit qu'on a du temps et à la fois pas de temps. Et quand on le vit tous les jours, on se dit, bah non, mais en fait, ça va, parce que c'est un travail qu'on fait 3-4 ans, qui finalement est souvent un peu, voire beaucoup plus. Et en fait, on se dit toujours, bon, on a quand même le temps, on va essayer de se faire plaisir aussi, je pense, les premières années, à avoir dans des lectures. Et souvent, en fait, on oublie de se dire trop souvent, non, il ne faut pas trop se perdre dans ses lectures et essayer d'être assez carré dès le départ pour éviter de perdre justement ce temps qui sera préjudiciable par la suite. Mais après, je pense qu'il faut aussi savoir profiter les premières années pour faire pas que la thèse, que de la recherche, mais en profiter peut-être aussi pour faire, comme on fait nous à Brest, des journées d'études des doctorants, donc des communications un peu rigolotes sur des sujets qui restent scientifiques, mais où on n'oublie pas le plaisir en fait de la recherche dès le départ.
Bien, bon conseil.
J'ai une question par rapport au contenu de votre thèse que vous avez évoqué à tout à l'heure concernant comment et quand le Conseil des Nations Unies décide ou donne des décisions ou des recommandations. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des exemples par rapport à la décision et la recommandation du Conseil des Nations Unies?
Alors, des exemples, il y en a plein, parce qu'il faut dire que les Nations Unies sont, surtout le Conseil de sécurité, par rapport à certaines années, quand même beaucoup plus actifs entre les résolutions qui vont être discutées et non votées, les résolutions qui vont être votées aussi, et puis c'est le fondement juridique, en fait, des résolutions, donc c'est savoir si ils sont, le Conseil de sécurité s'est fondé sur le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 6 bis, ce qui permet de savoir si c'est obligatoire, si ça reste justement de la recommandation, ou si il peut y avoir de mesures coercitives aussi derrière. Donc c'est très vaste comme question. Et après, d'avoir des exemples, je pense que même dans une seule résolution, si on prend les dernières résolutions qui traitent du maintien de la paix et de la sécurité internationale, qui datent de fin septembre, début octobre, elles sont sur les migrants aussi. Donc souvent, on va recommander à des États d'avoir tel agissement et puis on va décider de prendre des mesures, on va décider de créer un organe subsidiaire afin d'enquêter ou de créer une opération de maintien de la paix, en fait. Où là sera une décision, alors qu'on recommandera une attitude particulière aux acteurs qui peuvent être étatiques, d'ailleurs, et maintenant non étatiques aussi.
Bien, là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, mais on va malheureusement s'arrêter là. Mais pourquoi pas, une deuxième émission sur Merci, merci beaucoup. Merci à Marie-Charlotte Dizès, doctorante au LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, et à l'école doctorale de droit et de sciences politiques. Dans les trois prochaines émissions du Lab U, nous nous intéresserons au commun avec Pierre Servin, doctorant en sociologie à l'UBO, membre du LABERS, le laboratoire de sociologie de l'UBO, Michael Laven, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, membre du LABLEX, laboratoire de droit, et Nicolas Julien, enseignant-chercheur à IMT Atlantique et membre du LEGO, laboratoire de gestion et d'économie. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur les pages médiation scientifique des bibliothèques universitaires de l'UBO.